Europe 1,
11h midi 30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être, dans laquelle on s'intéresse uniquement à vous, à votre vie quotidienne, mais aussi à votre santé. C'est tous les jours en direct, de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Mélanie, quel est le programme?
Eh bien Julia, ce matin on va commencer par se poser cette question. Est-ce si facile que ça de se reconvertir? En fait, on va s'adresser à tous ceux qui s'interrogent, depuis le Covid ou même avant d'ailleurs, sur leur carrière professionnelle. Peut-on réellement entamer une reconversion n'importe quand, à n'importe quel âge? On vous donnera les clés d'une reconversion réussie, mais aussi les pièges à éviter avec notre invitée. Ce sera Laurence Bourgeois. Elle est coach certifiée et l'autrice du livre « Se reconvertir pour les nuls ».
Un peu plus tard, à 11h35, il y aura notre dossier santé du jour à l'occasion de la journée mondiale de la ménopause. On va parler de cette période de la vie des femmes sous tous les angles. Pour faire le point, nous recevrons le docteur Odile Bagot. Elle est médecin gynécologue. Elle a écrit le livre « Ménopause, pas de panique » paru chez Mango Éditions.
Ensuite, Julia, dès midi, comme tous les jours, on ouvrira notre table des tendances avec un trio de chroniqueurs autour de nous pour la gastronomie. Ce sera le chef Abdel Alaoui qui va nous régaler aujourd'hui. Il va nous faire découvrir une recette à base de choux qui nous vient de Corée, le kimchi. On en trouve en France, rassurez-vous Julia, on vous apprendra à le cuisiner. Ensuite, Sophie Braffman qui rentre du festival de hier, festival international de mode et de photographie, nous fera part des trouvailles qui l'ont marqué.
Et enfin, pour finir ce tour de table des tendances, Benjamin Lévesque, notre journaliste beauté, nous rejoindra. Il a été déniché pour nous les dernières nouveauté au salon de l'esthétique. Je vous mets juste un peu l'eau à la bouche, une machine qui fait des abdos à votre place ou encore des diamants dans votre crème de jour.
Europe 1.
Bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 bien sûr, et donc ce matin dans notre magazine Bien-être, on va tenter de répondre à cette question. Est-ce si facile que ça de se reconvertir?
Et oui, vous qui nous écoutez, vous rêvez peut-être de tout envoyer balader, enfin du point de vue professionnel en tout cas. Eh bien peut-être que vous avez cette passion qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, mais vous n'osez pas franchir le pas, vous lancer de nouveau dans les études par exemple. On va voir bien sûr tout cela ensemble, mais avant cela, lui il a déjà eu 12 métiers, il est humoriste, journaliste, ambianceur, animateur de colo, géno. Mais
tout.
Clément Lanoux,
bonjour.
Clément. Bonjour Clément. Alors la reconversion, ça vous a inspiré?
Alors ça m'a inspiré, moi je suis très bien avec vous, donc pas à titre personnel, mais effectivement j'ai étudié, j'ai mené vraiment un travail de fond et j'ai rencontré la personne au monde qui est spécialisée dans la reconversion, j'ai eu la chance de l'interroger, en tout cas c'est ce que m'a dit cette personne. Qu'est-ce qu'une reconversion? Bon, c'est une personne qui a 7 ans.
Une reconversion, c'est quand les parents, ils en ont marre de leur travail, ils le trouvent trop nul, qu'ils ont envie de changer.
Donc ça, c'est l'idée générale, c'est assez bien résumé. C'est la vision des enfants de la reconversion. La reconversion, pour ceux qui ne voient pas, c'est quand vraiment on a envie de changer de métier. C'est ce qui nous arrive la plupart du temps, une fois qu'on a bu 3 verres en soirée et qu'on se tourne vers ses potes en disant « on va ouvrir un bar en Australie, ça va être génial !» Et puis le lundi, finalement, on va bosser normalement. Donc c'est dur, ce cap est très dur à franchir. Pourquoi il est si dur que ça? Pour différentes raisons.
Après, comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc c'est sûr que c'est risqué de se reconvertir. Par contre, ce risque, il peut être positif et ça peut justement changer la vie en mieux. Donc, s'il y a un risque à prendre, autant le prendre.
Est-ce qu'on allait me faire confiance puisque je repartais à zéro et donc avec pas d'expérience? C'était un peu comme mon premier travail. Il fallait que quelqu'un me donne une chance et j'avais un peu peur que justement personne ne croit en moi.
Je pense que beaucoup de gens hésitent à cause de l'aspect financier. Ils ont peur de ne plus pouvoir payer leurs factures.
Je crois que c'est le truc qui arrive au numéro 1. Si on gagne au loto, on se reconvertit le lendemain. Mais sinon, dans la vie, il y a quand même beaucoup de questions à se poser avant.
On se reconvertit en rien, en fait, si on gagne au loto.
En ce qu'on veut, on se reconvertit, on ouvre vraiment ce qui nous fait plaisir. On ouvre un restaurant. S'il n'y a pas de clients, c'est pas grave, on a de l'argent. Donc ça arrive malheureusement à très peu de personnes. Alors pour bien se reconvertir, justement, j'ai fait appel à des personnes qui se sont reconverties professionnellement et pour différentes raisons. La première que j'ai rencontrée, c'est assez drôle, c'est Par amour, on dirait un film de Cédric Clapiche.
Avant, j'étais secrétaire et un jour, je suis allée manger avec des copines et puis je suis tombée raide, dingue amoureuse du serveur, en fait. Et j'ai voulu me mettre à la cuisine, il m'a donné envie de m'y mettre. Et au final, reconversion professionnelle et... aujourd'hui, on a ouvert notre restaurant et je suis cuistot.
C'est beau,
c'est
ça. Ça, c'est une belle histoire.
Après,
il y a la reconversion classique qui a été vraiment très, très visible pendant le confinement. C'est ceux qu'on avait marre, justement, de la ville, prendre soin d'eux et du grand air.
Avant, je travaillais à la Défense dans un bureau. Après, avec le confinement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et du coup, je suis devenu paysagiste. Au moins, je suis à l'air libre tous les jours et je profite vraiment.
Ah ouais.
Il y a eu un retour vers les métiers manuels, justement,
nature,
les métiers qu'on aime,
en fait,
aussi, directement, et de se dire, est-ce que j'aime vraiment mon métier? Et puis, un petit dernier, quand même, avant de se quitter, ça, c'est les reconversions qui, pour les personnes qui le font sont assez énormes et pour les amis, se voient pas trop quand on passe d'un métier à l'autre, mais des métiers qui se ressemblent.
Avant, j'étais boulanger, mais maintenant, je suis pâtissier. Ah. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Merci beaucoup Clément Lanoux.
Avec plaisir. Ouais,
vous feriez quoi vous si vous changez?
Franchement, je pense que j'adorerais être guide touristique.
Ah ouais, ouais. Ah, on adorerait visiter les choses avec vous.
De, ben, Europe 1 hein, déjà, ouais, je pourrais vous faire le tour de la rédaction, présenter. Voilà,
faire un test. Une
ça c'est Philippe Vandel, regardez à droite, voilà, c'est pas mal, pourquoi pas.
Merci beaucoup Clément, on vous retrouve demain avec un autre reportage, mais vous pouvez rester avec nous parce on va passer tout de suite justement à la pratique, au mode d'emploi d'une reconversion réussie avec vous Laurence Bourgeois, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous avez travaillé donc dans les ressources humaines, vous vous êtes reconvertie justement et vous êtes désormais coach certifié, autrice du livre Se reconvertir pour les nuls chez First Edition. Alors Laurence, déjà d'un point de vue global, est-ce qu'on a une idée de la part des Français qui y pensent, qui y songent, qui voudraient faire une reconversion professionnelle?
Alors selon les enquêtes ou les études, on estime à environ entre 50 et 90% d'actifs français qui songent à une reconversion professionnelle.
50 à 90%, ça veut dire que...
Qui songent ?
Ça veut dire 5 à 9 français sur 10.
Ouais, j'ai compris, je suis bonne en maths, je pourrais pas me reconvertir tout à fait en prof, mais dites-moi, c'est fou, ça veut dire que la moitié des Français, au moins, songent à changer de travail.
Ils sont pas heureux dans leur travail ?
Ben, je pense que ça veut dire que 50 à 90% des Français ont avant tout envie de changement. Alors pour des raisons qui peuvent être extrêmement variées, qui vont de « je trouve plus de sens aujourd'hui dans ce que je fais, ah, j'ai trop de travail, ah, je m'entends plus avec mes collègues, ou alors j'ai fait le tour de mon poste ».
Bon là on parle de l'envie de changement qu'on peut avoir, mais après il y a une différence avec le courage qu'on peut avoir aussi à franchir le pas. Dans les 50% d'actifs environ qui y songent, combien osent vraiment se lancer? On sait ça?
Alors là, oui, on est sur entre un tiers et, cinq, et la moitié.
Donc c'est 50% qui pensent.
Exactement, qui osent franchir le cap.
50% des 50%.
Exactement.
Ça fait quand même pas mal de monde. Est-ce que le contexte actuel, à savoir la pandémie, depuis plus d'un an, a fait exploser le nombre de personnes...
paysagistes.
Oui, c'est ça. Est-ce que ce qu'a vu Clément Lanoux sur le terrain, vous le ressentez, vous?
Très clairement. Très clairement. La pandémie, je pense, a donné des idées, voire des ailes à beaucoup. La nature de la relation de travail a changé. Aujourd'hui, des nouveaux métiers sont apparus. Le contour des métiers s'est redessiné. Le télétravail a donné la perception d'une autonomie, je pense, renforcée. Et de ce fait, c'est vrai que le confinement a été extrêmement propice à toute une phase de réflexion et de questionnement.
Moi, je me suis juste dit, je ne veux pas faire un travail qui ne soit pas dans ma chambre,
c'est
si c'est possible. Puisque vous, justement, vous avez franchi le pas, vous vous êtes reconverti à un moment de votre vie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous confier, même si c'est intime, bien sûr, mais ce qui a été le déclencheur pour vous, c'était avant le confinement, votre reconversion?
Oui, c'était avant le confinement, en fait. Moi, c'était plus un terreau fertile à la base, j'aurais envie de vous dire, un rêve. Vous savez, ces petites choses qu'on garde dans un coin de sa tête, accrochées quelque part, et puis on attend d'être prêt, et au final, on n'est jamais prêt. Et donc, un jour, j'ai décidé que les planètes allaient s'aligner. Et de ce fait, je pense que j'étais beaucoup plus ouverte aux signes qui sont apparus. Et comme par hasard, tous les signes allaient dans la même direction. Donc, j'ai arrêté de rêver et je me suis lancée.
Et vous n'avez écouté que votre courage. Alors, il y en a aussi qui se disent pourquoi pas changer. Mais en gros, ils en ont marre un peu de tout et peut-être aussi de leur vie personnelle. Est-ce que dans ces cas-là, avant de changer et de faire une reconversion, il faut bien mettre tout à plat parce que, et pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit?
Exactement, je pense que la reconversion n'est pas une solution à tout. Et parfois, changer de métier, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et en réalité, les personnes cherchent un changement beaucoup plus profond, d'où l'importance de se questionner sur le pourquoi. Quelles sont nos motivations profondes? Et c'est ce qu'on travaille en coaching.
Bon, on va voir ça plus en détail avec vous dans quelques instants. Laurence Bourgeois, vous restez avec nous. On va poursuivre l'entretien. Comment trouver le prochain métier, celui qui aura vraiment du sens pour vous? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de sauter le pas? On va décortiquer tout ça ensemble sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
On change pas, on met juste les costumes d'autres et voilà.
Voilà, déjà, je sais que pas. Je ne pourrais pas me reconvertir en chanteuse.
Oui, c'est
ça. Tout le monde n'est pas Céline Dion, merci.
Ni Benjamin en choix de playlist. Je ne sais pas si c'est un métier, puisque c'est Benjamin Lévesque qui nous a mis du Céline Dion. Il est archi fan.
Moi aussi, je suis assez fan.
Continue, on peut l'éteindre, je pense.
Eh bien, vous êtes bien de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être, feel good. Ici, on tente chaque matin de vous faciliter la vie pendant 1h30. Et donc aujourd'hui, on se pose cette question importante. Est-ce si facile que ça de se reconvertir en 2021? On y répond avec Laurence
Laurence Bourgeois. Je rappelle que vous êtes coach certifié, l'autrice du livre « Se reconvertir pour les nuls » chez First Edition. Allez, on l'attaque, hein, cette reconversion. J'imagine que ça doit passer d'abord par faire le point. On en parlait juste avant sur sa situation actuelle. Quelles sont les questions fondamentales qu'il faut se poser ?
Je pense que cette phase de questionnement est absolument primordiale et c'est vrai qu'aujourd'hui tout va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de se questionner. Et les vraies questions tournent avant tout autour de, je pense, de l'objectif et de l'ambition qu'on se fixe. Également, quels sont nos besoins les plus profonds ? Comment va-t-on ou pas d'ailleurs les couvrir dans cette nouvelle situation professionnelle ? Idem pour les valeurs. Et finalement, quelles sont nos motivations profondes ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui tous les matins va nous faire lever, puisque je suis intimement convaincue qu'à la base de toute reconversion, il y a une envie.
Alors si simplement je m'ennuie dans mon boulot actuel, est-ce que ça suffit pour tout envoyer valser ? Parce que parfois on s'ennuie dans le poste actuel, mais dans la même entreprise qu'on peut avoir aimé, qu'on aime toujours malgré tout. Il suffit d'en parler parfois pour que ça change aussi.
Exactement, c'est un peu comme le divorce, si vous voulez. C'est pas forcément le remède absolu quand ça ne va pas dans un couple. Et ben idem en situation professionnelle. Changer de travail n'est absolument pas une réponse à tout, et le risque serait qu'on s'enferme dans des ruminations, des frustrations, et qu'on finissent par prendre des décisions parfois radicales qu'on pourrait regretter.
Clément, si un jour vous vous ennuyez, surtout avec nous, vous nous le dites. Hein,
je
ne
m'ennuierai jamais à vos côtés, mais en revanche, j'ai une question. On parlait tout à l'heure du nombre de personnes qui songent à se reconvertir. Est-ce qu'il existe des chiffres des personnes qui l'ont fait et qui le regrettent ? Est-ce que c'est énorme ou est-ce que tous ceux qui se reconvertissent finalement sont plus heureux après ?
Alors, d'expérience, là je ne vais pas vous parler d'enquête ni d'études, mais d'expérience, toutes les personnes que je vois ou que je suis en coaching ou avec qui je discute revivent ou sont beaucoup plus heureuses après.
Le paysagiste de Clément, dans son micro-trottoir, il faisait quoi avant déjà ? Je m'en rappelle
plus. Il était à la Défense.
Il peut revenir, avoir envie de revenir à la Défense, ça arrive rarement quand même. Hein.
Planter des arbres peut-être.
Oui,
mais...
pour planter des arbres. Exactement, retrouver du sens dans ce qu'on faisait auparavant.
Bien sûr.
Tout à fait.
Mais j'imagine aussi que certains se sont sentis pousser des ailes pendant le confinement et ont fait des choix qu'ils ont aussi regrettés. Parfois, certains vont peut-être trop vite, non ?
Oui, portés par l'effervescence, je crois qu'effectivement, le télétravail, le confinement ont donné vraiment des ailes à beaucoup, sauf qu'une reconversion, ça s'anticipe, ça se prépare et il faut s'outiller.
Justement, certains se sont sentis pousser des ailes, mais parfois on a l'impression qu'on a envie de changer de travail, mais en réalité on a envie de changer de vie. Certains ont eu ce besoin de nature, comme ça. Pour ça, il n'y a pas besoin forcément de changer de travail,
non,
il suffit de déménager,
voilà, de campagne,
de logement, non, c'est ça ?
Exactement, et là encore, est-ce que c'est changer de travail ou changer de vie, changer de région ? Se questionner sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut changer ? Qu'est-ce qui est important pour nous ?
Oui, parce que souvent, du coup, quand on va mal, on a envie de changer. Mais est-ce qu'il ne faut pas attendre d'aller bien pour changer ? Parce qu'est-ce que la décision sera bien si on n'est pas au top moralement ?
Une reconversion, tout à fait, ça se prépare. Et ça se prépare quand tout va bien. Oui. Parce que quand tout va bien, on a suffisamment d'énergie pour demain se mettre en mouvement.
Et donc, quand on ne va pas très bien, votre conseil, c'est plutôt prendre des vacances, prendre un peu de recul avant de prendre des décisions hâtives.
Souffler pour faire le point, souffler parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on ne prend même pas le temps de se poser des questions et les bonnes questions.
Alors, comment je le trouve, ce boulot de mes rêves, si effectivement, parfois, on peut avoir envie de changer, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Clément, il nous a répondu tout de suite, je serais guide touristique, mais c'était un peu rapide, peut-être, ce n'est pas exactement ça que vous
feriez. J'en ai eu prof d'histoire géo, mais j'adore.
Comment l'identifie, ce boulot, ce nouveau boulot ?
Je crois qu'à la racine de tout changement professionnel, il y a une envie, il y a le désir. Ça doit partir du ventre, ça doit partir du cœur. C'est seulement à cette condition, une fois qu'on tient cette envie, qui peut être une passion de l'enfance ou pas forcément, qu'on peut raisonnablement commencer à réfléchir au comment et au quand, c'est-à-dire à s'outiller, formation, bilan de compétences, etc.
Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Une fois qu'on a le désir, ça y est, moi j'ai le désir, je l'ai là, je l'ai connecté, je vais voir qui ? Je fais un test de personnalité, je m'adresse à qui en fait ?
Alors, une fois que vous avez le désir, vous allez construire votre projet, d'accord ? Vous devenez architecte de votre vie professionnelle ou de votre nouvelle vie
architecte,
professionnelle.
Architecte, ça vous irait pas mal, non, comme métier,
non, décoratrice, non, peut-être ?
Oui, je sais pas. Elle aime bien le rangement, les choses rangées, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Spécialiste du rangement, c'est un métier tendance.
Parfait, c'est très à la mode également, le rangement, tout ce qui est un petit peu retour sur soi, retour à l'essentiel. Et donc, tout ça pour répondre à votre question, vous allez commencer à vous outiller et à vous faire accompagner. Ça peut être un coach, ça peut être un cabinet d'outplacement, ça peut être les services de Pôle emploi. Mm-hmm. Tout dépend de votre projet. Est-ce que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat? Auquel cas, il existe effectivement des comptables, des fiscalistes, des structures extrêmement adaptées que je détaille dans le livre.
Bon, et justement, les finances, hein, ça peut être, c'est souvent le frein. C'était cité là aussi encore dans le micro-trottoir Clément Lanoux. Les finances, ça peut être un frein à tout changement parce que il faut avoir les moyens de lâcher le boulot qu'on a actuellement et pour lequel on n'est pas si mal payé peut-être. Enfin, et reprendre des études, comment on finance tout ça? C'est une question importante à se poser, j'imagine.
C'est une question très importante. Les finances, ça peut être une très bonne raison, mais ça peut être aussi, et je le vois, un très bon prétexte pour éviter de se lancer. Et je vois aujourd'hui des personnes qui, portées par l'effervescence de projets qu'ils mènent, qu'ils ont envie de mener tous azimuts, oublient de se poser les questions de base qui sont quel est mon revenu actuel? Quel est mon niveau de vie? Quels sont mes besoins futurs? Et de ce fait, quel va être le revenu dont je vais avoir besoin? Certains omettent même cette phase qui est pourtant essentielle.
Et ça, il y a toujours une solution. Je veux dire, si on se pose cette question, vous dites que c'est un prétexte. Ça veut dire qu'on peut toujours trouver des moyens financiers de faire ce revirement?
Ça veut dire que bien souvent, c'est une barrière qui n'en est pas une. C'est une croyance. C'est qu'au fond, on hésite peut-être à se lancer pour d'autres raisons.
Bien sûr, il faut fouiller tout ça. C'est quoi les secteurs en ce moment les plus prisés pour les reconversions?
Comme elle n'a pas d'idée, Julia,
j'ai l'impression que tout le monde veut être boulanger et pâtissier en ce moment. Est-ce que je me trompe?
Alors, les secteurs les plus prisés, c'est ce qu'on disait, c'est beaucoup retour à la nature. Hein, donc, beaucoup de permaculture, des cours de sylvothérapie, etc. Le soin aux personnes. Et puis, bien sûr, l'entrepreneuriat.
Et la bouffe, non?
Alors, la boulangerie, effectivement, la boulangerie, je crois que vous avez raison, c'est le deuxième métier le plus prisé dans le cadre des reconversions professionnelles, juste après maître ou maîtresse d'école.
Ah oui.
Et si le désir, c'est plutôt de vivre donc d'une passion, vous parlez de ces passions d'enfance qui peuvent nous envahir comme ça et être en nous finalement depuis très longtemps. Clément, il rêve d'être chanteur, par exemple.
Mais évidemment, évidemment.
Mais chante comme une casserole, non, j'en sais rien. Voilà, est-ce que si vraiment c'est une passion qu'on veut suivre, il faut y aller à tout prix, parce que parfois on n'est clairement juste pas doué pour ça. En fait. Hein.
Exactement. Alors, dans ce cas, Mélanie, moi, je vais vous conseiller de faire votre ikigai, vous savez.
Ah, c'est quoi ça?
Eh bien, c'est quatre éléments à prendre en compte. Un, est-ce que vous avez l'envie, apparemment? Oui, la chanson. Deux, est-ce que vous êtes bonne? Allez, j'ose espérer que oui.
Moyen. Meilleur que Clément.
Donc, avez-vous les compétences? Trois, existe-t-il un besoin sur le marché? C'est moins évident.
C'est ça.
Et quatre, est-ce que ce projet va être suffisamment rémunérateur en fonction de vos besoins?
Abandonné.
Alors, peut-être, Mélanie, allez-vous travailler les deux dernières variables? Et pourquoi pas envisager des métiers connexes à la chanson.
Prof de chant,
donner des cours à des enfants, construire un site internet, etc.
Bien sûr, c'est intéressant ces questions, effectivement. Il faut se les poser. Quoi qu'il en soit, vous dites qu'on devrait tous, surtout les jeunes, avoir en tête qu'un jour, on devra peut-être se reconvertir. Et vous donnez ce chiffre, le 13, qui donne un peu le tournis quand on sait de quoi il s'agit.
Oui, exactement 13. Selon Pôle emploi, c'est le nombre de fois en moyenne où les jeunes actifs changeront d'emploi, pas forcément de métier, mais d'emploi au cours de leur vie professionnelle. Donc effectivement, ça peut donner le tournis, mais à l'ère du digital, il y a énormément de rotation.
Oui, c'est 13 fini. Emplois dans leur
c'est
vie,
fini,
les jeunes actifs
le métier
d'aujourd'hui. De nos parents qui avaient un seul et même métier, tout ça, c'est plus jamais.
Exactement, les candidats, et je travaille aussi dans le recrutement, sont extrêmement volatiles.
Vous dites une dernière chose aussi, vous dites que quand on a une idée, une envie, un désir de reconversion, il faut malgré tout avoir un plan B. Ça veut dire qu'en fait on part du fait qu'on va échouer en fait quelque part.
Pas du tout.
Non.
Le plan B, c'est tout sauf du pessimisme. Et le plan B est indispensable quand on parle de reconversion, parce que qui dit reconversion dit changement, dit forcément se lancer avec une zone d'incertitude au bout. Et un plan B permet de naviguer au mieux en zone d'incertitude tout en balayant des alternatives au cas où on aurait un échec ou une déconvenue.
Donc c'est je serai chanteuse, mais peut-être prof de chant, quoi, c'est ça.
Voilà.
C'est le plan. Voir les cartes du corps du chanteur, si voilà, jamais il faut un plan C.
Ça marche
voir,
pas.
J'achète son disque.
Exactement, c'est le plan Z.
Merci Laurence Bourgeois. On va rester encore un petit peu ensemble, on a d'autres questions pour vous et nos auditeurs surtout. On va leur répondre dans quelques minutes. D'ailleurs, je vous le rappelle, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore au 3921, notre répondeur.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec notre question ce matin. Est-ce si facile que ça de se reconvertir? Notre coach, pour y voir plus clair, c'est vous, Laurence Bourgeois. Vous venez de publier le livre « Se reconvertir pour les nuls » publié chez First. Alors on va passer aux questions de nos auditeurs. Il y a par exemple Florent sur notre compte Instagram qui demande s'il y a un bon âge pour se reconvertir. Il a l'impression que c'est souvent à l'approche de la cinquantaine que ça arrive, ces envies-là. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, je pense que Florent, il est dans le vrai, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on pensait que 40 ans, c'était l'heure du bilan. Et aujourd'hui, on se rend compte, chiffre à l'appui, que le pic est à 50 ans. Donc, les enfants sont grands, les prêts sont remboursés, et je pense qu'on a juste envie de retrouver du sens dans ce qu'on fait.
Je croyais que vous aviez 50 ans, tout d'un coup, vous vouliez intervenir.
C'était ma question pour savoir si justement, il y avait un lien avec l'éducation des enfants, de se dire, voilà, c'est peut-être plus rassurant si les enfants commencent à gagner leur vie, de prendre des risques en tant que parents, peut-être.
Peut-être que c'est une des raisons qui fait qu'effectivement le curseur se déplace petit à petit.
Alors on a aussi une question de Juliette au 39-21 qui dit qu'elle n'en peut plus de son boulot d'assistante de direction. Elle voudrait changer de voie mais elle a l'impression d'être une girouette. À chaque fois qu'elle se pose pour y réfléchir, il y a un nouveau métier qui émerge. Un jour esthéticienne, le lendemain aide-soignante, 3 jours après naturopathe. Bref, comment identifier le bon? Apparemment, elle a 3 désirs. Alors comment on fait quand on a 3 désirs?
Déjà, je crois qu'on va rassurer Juliette parce qu'elle a envie, ce qui est la base de toute reconversion. Hein, on le répète, mais je pense que voilà,
on dira jamais assez qu'elle a envie d'aider les autres parce que esthéticienne, aide-soignante, naturopathe, c'est des métiers tournés
quand
même.
Donc Juliette, elle va tous azimuts. À un moment donné, elle va resserrer l'étau parce que sinon, elle ira nulle part. Et effectivement, quelles sont les valeurs communes de tous ces métiers et qu'est-ce qui fait que demain, elle va retrouver du sens par rapport à ses valeurs dans ce qu'elle va trouver.
Dans les 3 qu'elle évoque, je pense que aide-soignante, c'est pas mal. Il y a du boulot, non, je pense.
Oui, tout à fait.
Mais elle a rechangé d'avis pendant la question. Elle va être boulangère maintenant, apparemment.
Oui, on lui a dit ça tombe bien.
Mais ce qu'on découvre, moi, j'ai l'impression, à travers les questions de nos auditeurs aussi, c'est qu'en prenant de l'âge, 40, 50 ans, à l'âge de la reconversion, on a besoin d'aller vers plus d'être que de paraître, non ? C'est vraiment, on se connecte à nos propres désirs.
Je crois que voilà, on a besoin de retrouver du sens et quand on dit du sens, c'est retour à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui constitue la nature profonde de l'individu, ses besoins propres, ses valeurs et se recentrer sur vraiment ce qui fait du sens pour nous, au sens direction.
Alors, sur Twitter, on a aussi Damien qui dit « J'envisage de changer de métier, je suis opticien, mais je déteste de plus en plus cela. J'aimerais en fait ouvrir une boutique de manga, ma passion, mais ma femme me l'interdit. » Alors là, il y a un problème de couple. Ouf. Attention à ce que vous allez lui répondre, mais qu'est-ce que vous lui conseillez?
Déjà, je ne vais pas forcément lui conseiller de changer de femme. C'est ça. Bien sûr, j'y aurais pensé, mais non.
Sa femme s'inquiète probablement, j'imagine, pour des raisons financières.
Damien, je pense qu'il touche du doigt là, l'écologie un peu globale de tout projet de reconversion. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné prendre en compte le bien-être d'un collectif et des proches en particulier et questionner pourquoi est-ce que sa femme ne veut pas, quels sont ses doutes, est-ce que c'est tout simplement pas le bon moment, peut-être.
Et donc si sa femme, là elle dit qu'elle lui a interdit, c'est un peu fort comme mot, mais ça veut dire que si notre conjoint est contre, il faut pas y aller, quoi, c'est ça?
Ça veut pas dire ça, je pense pas, ça veut dire qu'il faut effectivement toujours revenir au questionnement, prendre en compte l'écologie globale et questionner, et peut-être que si c'est pas le bon moment maintenant, ça le sera demain.
Et puis, quand vous parlez d'écologie globale, j'imagine que c'est le conjoint, mais c'est aussi les enfants, parce que, par exemple, être boulanger, c'est se lever à 3h du mat, c'est aussi toute une vie de famille qui change. Donc, est-ce qu'on doit faire des conciliabules avec ses enfants avant de changer de voie
professionnelle? Clairement, je pense que quand on pense à un changement, il y a forcément un avant, il y a forcément un après, il y a un impact sur l'entourage. Et donc c'est un point extrêmement important pour se donner les chances de réussir.
Clément Lanou.
Après, dans ce cas de figure, je pense que les enfants préfèrent les mangas que les lunettes.
J'en suis sûre, mais oui, les parents seront d'accord, les enfants seront d'accord effectivement pour la boutique de mangas. Dernière question, on va prendre celle de Bertrand sur Instagram, sur notre compte Instagram, d'ailleurs ça s'appelle Bien fait pour vous, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver facilement. Alors il demande, Bertrand, si reconversion veut toujours dire passer par la case formation. Il aimerait changer de vie, de métier sans avoir à retourner sur les bancs de l'école. Est-ce que c'est possible et dans quelle branche c'est possible? Là, il vous demande de choisir
sa
place.
Heureusement, il existe énormément de métiers qui ne requièrent pas de formation initiale absolument indispensable. Et je les détaille notamment dans le livre. C'est le cas, par exemple, des soigneurs animaliers, des barmans, des vendeurs, etc. Mm-hmm. Mais je pense que Bertrand, il faut qu'il se retourne là encore sur l'essentiel, c'est-à-dire son envie et sa motivation.
Et puis, dans ces cas-là, excusez-moi, on n'a pas des comptes formation en entreprise. On peut aussi se servir de ça, non ?
Bien sûr, qui prennent aujourd'hui tout leur sens. Effectivement, c'est un formidable outil d'aide à la reconversion professionnelle quand on est en entreprise.
Et puis on peut faire des formations et se dire, ah ben non, finalement c'est pas ça, on peut essayer avant de faire
bien
le
sûr,
grand,
on peut essayer,
saut.
Tester, la vie n'est peut-être finalement qu'une suite de reconversions.
Bah oui. Très bien, 13 fois on changera de métier, les jeunes actifs. Donc
je vais demander à Europe 1 compte formation pour devenir chirurgien.
Je pense que là, il vous faudra quelques années en plus de la formation. Merci beaucoup, Laurence Bourgeois, d'avoir répondu à nos questions, à celles de nos auditeurs ce matin. On a bien débroussaillé ensemble les indispensables, en tout cas, les astuces pour une reconversion réussie, des conseils qui vont aider, je suis sûre, nombre de nos auditeurs. Merci.
Merci, Laurence. Alors, Mélanie, à présent, il est l'heure de changer de thématique et de prendre soin de nous, enfin, surtout des femmes qui approchent ou qui sont en plein dans cette période parfois compliquée de la vie féminine, la ménopause. Et oui, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la ménopause, l'occasion de se pencher sur cette période parfois sensible dans la vie des femmes. Alors pour en parler, nous avons fait appel à une experte du sujet. Bonjour docteur Odile Bago.
Bonjour.
Vous êtes médecin gynécologue et vous êtes l'auteur du livre Ménopause, pas de panique chez Mango Édition. Alors je précise que vous êtes, et vous le dites vous-même, hein, une sexagénaire heureuse. Et c'est très important de le signaler, ça veut dire que bah, évidemment vous êtes passée par là.
Et oui, je suis passée par là, par toutes ces étapes. Et en fait, ces étapes, il faut dire que c'est une rupture d'équilibre. Et c'est comme quand on passe de l'enfance à la puberté à l'âge adulte. Sauf que les enfants, on a beaucoup de pitié pour eux. Alors les femmes ménopausées, il faut aussi s'en occuper et être bienveillant vis-à-vis
d'elles.
Est-ce
qu'elles peuvent se reconvertir, les femmes ménopausées?
Justement, je voulais rebondir sur ce que disait Laurence, parce que la ménopause, c'est une formidable période, justement, de créativité. Parce qu'on ne peut plus créer symboliquement d'enfants dans notre corps, mais on sait créer énormément de choses à partir de notre expérience, à partir de nos talents. Et c'est vraiment une période, et j'étais surprise de voir que c'était une période vraiment importante pour la reconversion, où on est extrêmement productif.
Oui, c'est une période fertile, mais dans un autre sens apparemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Odile, précisément, qu'on parle tous de la même chose, ce qu'est la ménopause ?
La ménopause, ce n'est pas une prise de sang, ce ne sont pas des symptômes, c'est un an complet, sans règles, autour de 50 ans.
D'accord.
Il faut vraiment retenir ça. Maintenant, on a bien parfois des petits indices différents, par exemple une prise de sang avec la mesure de la fameuse FSH qui nous est bien utile lorsque des femmes ont par exemple une contraception sans règles. Mm-hmm. Parce qu'on me dit, bah, c'est un peu ballot votre affaire, un an sans règles. Moi qui ai déjà une contraception sans règles, comment je vais savoir? Donc on a quand même d'autres outils s'il faut, mais bien retenir un an complet sans règles.
Autour des 50 ans. Et alors les premiers symptômes, ce qu'on appelait la périménopause, je crois qu'il y a un autre terme aujourd'hui, ça peut démarrer avant, ça dure combien de temps? Est-ce que ça peut être déjà une période qui est déjà compliquée en elle-même ou pas?
Oui. Alors cette fameuse périménopause ou préménopause, on ne sait jamais lequel utiliser, donc moi je vous propose de parler de transition ménopausique. Je trouve que c'est beaucoup plus chic.
C'est bien.
Ça commence à peu près vers 48 ans en moyenne. Ça peut durer quand même 3-4 ans. Donc ce sont justement les années qui précèdent cette fameuse année complète sans règles, où plus jamais, jamais, on ne reverra ses règles. Et cette période-là est hyper importante parce que c'est la plus pénible. Souvent on dit, oh la ménopause, c'est difficile. Non, c'est pas la ménopause. Une fois qu'on y est, on a des moyens. Mais c'est la période avant, et d'ailleurs il y a des études qui ont montré que justement les périodes de vie difficiles pour les femmes, c'est plutôt entre 45 et 50 ans. Pour les hommes, c'est plutôt à partir de 50 ans.
Et pourquoi c'est plus difficile la transition
ménopausique
plutôt que la ménopause en elle-même?
Parce que c'est un bazar pas possible au point de vue hormonal. C'est-à-dire qu'on va alterner des périodes comme en ménopause. C'est-à-dire qu'on va se retrouver 2-3 mois sans règles, avec des bouffées de chaleur, parfois des troubles du sommeil. Et puis ensuite, on va se retrouver avec ce que nous appelons une hyper-œstrogénie relative. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'œstrogène, mais dans notre balance hormonale, on n'a pas assez de progestérone. Et ce manque de progestérone, ça va donner quoi? Ça va nous donner d'abord des troubles du cycle. Des règles qui reviennent plus tôt, qui sont plus abondantes, qui parfois sont hémorragiques, d'autant plus que les utérus deviennent fibromateux. Donc, le muscle utérin devient plus gros, donc déjà c'est plus saignant. Vous y rajoutez un déséquilibre hormonal, le syndrome prémenstruel qui s'ajoute à ça, des règles plus douloureuses. Donc il y a déjà de quoi être un petit peu chahuté.
Mais ça se traite ça, tout ça? Tout ce que vous décrivez avant
la
ménopause?
Il y a des choses qui... Oui, ça se traite, c'est pas toujours aussi simple. Hein, ouais. Parce que s'ajoute à ça, en conséquence, c'est vrai, des troubles psychiques, mais déjà le psychisme est aussi pris dans cette espèce de tourmente hormonale.
Clément, vous voulez intervenir sur la ménopause? J'en suis vraiment contente.
Je me demandais si justement vous parliez de différents symptômes, si on pouvait presque passer à côté.
Vous les aurez pas,
ça m'intéresse quand même. Et de savoir si, j'imagine que c'est, chaque personne le vit différemment.
Alors, il y a des femmes très heureuses qui ont des règles comme il faut, tous les mois, jusqu'au jour où elles n'en ont plus du tout, et elles n'ont rien vu passer. C'est très exceptionnel. Il y a aussi les bienheureuses qui ont par exemple une contraception progestative. Elles prennent la progestérone en continu, donc ça nous lisse bien notre cycle, et puis on arrive gentiment en ménopause comme ça. On la sent pratiquement pas passer. Si on ne supporte pas les hormones par voie orale, en tout cas pour les règles, on a aussi des stérilets à la progestérone qui, eux, permettent de ne pas avoir de règles. Donc on est déjà moins chahuté, on ne se retrouve pas anémique parce qu'on a trop saigné, etc.
Bien sûr.
Et, oui, et docteur, est-ce qu'il y a des facteurs externes qui peuvent avancer de quelques années l'âge de la ménopause chez une femme? Et si oui, lesquels?
Alors, l'âge de la ménopause, il est surtout déterminé génétiquement.
D'accord.
Par rapport à l'âge de ménopause de sa maman, voilà, si elles s'en souviennent. Maintenant, on a quand même d'autres facteurs. Le tabagisme va faire que la ménopause arrive plus tôt.
Ah oui,
Et une femme qui, par exemple, a une chimiothérapie pour un cancer, ça va aussi avancer sa ménopause.
D'accord. Et donc, pour être certaine qu'on est ménopausée, vous avez dit c'est un an sans règles, mais est-ce qu'on peut faire un bilan sanguin aussi pour savoir? Non, ça c'est...
On ne peut pas, il ne faut pas. Ça ne sert à rien. Parce que notre fameuse FSH, cette hormone dite de la ménopause, tout le monde en parle, elle commence déjà à augmenter avant qu'on soit ménopausée. Donc, dans cette fameuse période de transition ménopausique.
Clément ?
Est-ce que ça joue sur le désir ?
C'est une très bonne question. La ménopause ou la périménopause ? Alors, la périménopause ou transition ménopausique, au point de vue strictement hormonal, ça ne va pas jouer beaucoup. D'autant plus que la libido chez la femme, elle est très contextuelle. Il est vrai que si vous avez vos règles tous les 15 jours, que vous saignez 10 jours et que vous êtes épuisé après, je pense que vous n'avez pas très envie de faire des galipettes. En revanche...
Si vous avez tous un mère, mari génial, ça se passe mieux. Et compréhensif.
Voilà. Exactement. Il faut que le mari soit compréhensif. En revanche, en ménopause, contrairement à ce qu'on imagine, la seule hormone qui a été identifiée comme étant vraiment l'hormone de la libido du désir, c'est la testostérone, c'est l'hormone mâle. Et l'équilibre hormonal de la femme ménopausée, il n'y a plus d'œstrogène, donc de manière relative, il y a un peu plus de testostérone. Hein. J'en veux pour preuve les trois poils au menton, par exemple.
Vous allez vous en
parler. Voilà, justement. Sauf que ça, c'est un peu mieux pour la libido. Et puis une femme qui a passé sa ménopause, qui n'est plus chahutée au point de vue hormonal, qui n'est plus préoccupée par sa contraception, les enfants sont plus dans les pattes, et ben on peut se livrer à des ébats beaucoup plus librement et avec beaucoup plus de plaisir.
Vous voyez que c'est joyeux la ménopause.
Docteur Bagot, ne bougez pas, on n'en a pas fini avec les bouffées de chaleur. On va vous expliquer quel est justement le mécanisme qui fait que notre climatisation interne se met à dérailler, mais surtout comment s'en débarrasser. Et en plus, il y a de multiples façons de soulager les femmes. On y revient très vite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé et de la santé des femmes, plus particulièrement ce matin. On prépare notre ménopause joyeuse avec Mélanie, on vous aide à mieux la traverser si vous êtes à cette étape de votre vie. Et donc on va passer aux solutions pour y parvenir avec vous, docteur Odile Bagot. Je rappelle que vous êtes médecin gynécologue et l'autrice du livre Ménopause, pas de panique, paru chez Mango Éditions. Alors on va parler des bouffées de chaleur. D'abord, est-ce qu'on a enfin percé leur mystère? Pourquoi les femmes ont ce problème-là?
Bien, on n'a pas entièrement percé ce mystère. On sait que c'est notre thermostat personnel qui est logé quelque part dans notre hypothalamus qui se dérègle.
Dans le cerveau, donc, l'hypothalamus.
Dans le cerveau, oui, l'hypothalamus, oui, c'est vrai, c'est dans le cerveau. C'est pas une remarque,
merci
Mélanie.
De préciser.
Donc, ce thermostat, en fait, normalement, il est réglé sur plus ou moins 0,4 degrés. C'est-à-dire, quand il y a des variations de 0,4 degrés, le cerveau va envoyer le message, on va dilater les vaisseaux pour avoir plus chaud. Où on va les contracter. Or, le thermostat d'une femme ménopausée, il est réglé beaucoup, beaucoup plus bas. Pour pratiquement rien, bam, on va avoir l'activation du mécanisme de production de chaleur particulier.
D'accord.
Donc ça, c'est un des mécanismes. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça dépend des hormones. C'est-à-dire que c'est le manque d'œstrogène. Quand on vient pallier ce manque d'œstrogène en donnant des œstrogènes à la femme, eh ben, il n'y a plus de bouffée de chaleur. Mais ça ne suffit pas pour tout expliquer. Je vous donne un exemple. Une jeune femme qui est en anorexie, par exemple, elle n'a plus de règles. Elle n'a plus d'œstrogène et elle n'a pas de bouffée de chaleur.
Oui,
donc
oui.
On n'a pas encore tout compris.
Mais c'est très fréquent. À quel point? Combien de femmes vont être concernées par ça?
Pratiquement toutes. Au moins 80% des femmes auront des bouffées de chaleur.
La bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas. A priori, on est ménopausée 30 ou 40 ans dans sa vie. Enfin, voilà, mais on n'a pas ça pendant 30 ou 40 ans, rassurez-nous.
Non, mais ça peut durer un certain temps. Au bout de 5 ans de ménopause, donc après cette fameuse année sans règles, la moitié des femmes ont encore des bouffées de chaleur.
D'accord.
Et j'ai des pimpantes non-ingénaires qui prennent un tout petit peu d'œstrogène encore à cause des bouffées de chaleur.
Ah oui. Le traitement, c'est les œstrogènes dans ces cas-là.
Alors, on a d'autres traitements avec des médecines complémentaires, mais quand ça ne suffit pas et s'il n'y a pas de contre-indication, c'est vrai que le traitement hormonal de la ménopause va régler notre problème.
Si on est en surpoids, on a plus de risques de souffrir de ça. Je crois que l'IMC, notre IMC, notre indice de masse corporelle, joue sur le fait, sur le risque d'avoir des bouffées de chaleur ou pas.
Alors, il y a effectivement un certain nombre d'études qui ont montré que les femmes en surpoids, en fait, elles ont une couche d'isolant qui est plus importante, vont avoir plus de bouffées de chaleur.
D'accord.
Mais d'un autre côté, les femmes en surpoids, dans la masse graisseuse, vont fabriquer plus d'œstrogènes que ne ferait une femme qui est maigre. Or, plus il y a d'œstrogènes, moins il y a de bouffées de chaleur. Donc, ce n'est pas très, très important comme différence.
Si le traitement hormonal de la ménopause, le fameux THM ne fonctionne pas sur les bouffées de chaleur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a autre chose en plus de la ménopause ?
Alors, c'est vrai que le plus souvent autour de 50 ans, quand on n'a plus de règles et qu'on a des bouffées de chaleur, c'est lié à la ménopause. Mais il est vrai qu'il faut rechercher dans d'autres systèmes endocriniens, regarder comment fonctionne la thyroïde, voir s'il n'y a pas d'hypertension, il y a des maladies rares comme phéochromocytome, etc., qui peuvent aussi donner des bouffées de chaleur. D'accord. Mais c'est quand même très rare.
Et donc ce traitement, c'est quand même le traitement de référence, le THM contre les bouffées de chaleur. Ça fonctionne bien en général?
En général, ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que c'est un traitement qu'on va donner si on en a vraiment besoin. C'est un traitement dit de confort, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté par la Haute Autorité de Santé. Mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi d'autres bénéfices sur ce qu'on ne voit pas, sur l'os, sur le système vasculaire par exemple.
Et ce n'est pas trop longtemps, hein, ce traitement, on ne le prend pas en général pendant 20 ans non plus. Hein.
Alors la recommandation, c'est 50 traitements. Mais il ne faut pas oublier une chose, on parle beaucoup des bouffées de chaleur. Mais j'aimerais bien qu'on parle du SGUM.
C'est quoi, c'est le SGUM?
Alors, ah, ça, j'adore.
Ça a l'air bizarre.
C'est pas une nouvelle danse yéyé, mais c'est très important. C'est le syndrome génito-urinaire de la ménopause. C'est-à-dire l'apparition d'une sécheresse vaginale, un inconfort vulvaire, une vessie qui devient capricieuse. Et ça, c'est vraiment très symptomatique de la ménopause. Ça n'arrive pas tout de suite comme les bouffées de chaleur. C'est un peu moins bruyant. Mais au bout de 2, 3, 4 ans, c'est quand même quelque chose qui va venir impacter la vie des femmes. Et ça, ça ne s'améliore pas avec le temps.
Alors sur Instagram, on a Conning qui nous demande « Atteinte d'endométriose, est-ce que la ménopause va me soulager ?»
Oui.
Ah, c'est la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle. Il y a de très très exceptionnelles endométrioses très graves qui ont encore un peu des symptômes. Mais c'est vrai que la ménopause, c'est royal pour l'endométriose qui malheureusement touche des femmes jeunes. Et donc, on ne va pas les mettre en ménopause à cet âge-là.
Ça, c'est sûr. Alors pour ça qui vraiment ne souhaite pas d'hormones, parce qu'il y en a, il y a d'autres solutions. Et je crois que notamment les antidépresseurs, c'est dingue ça.
Alors pour les bouffées de chaleur, il y a pas mal de traitements effectivement qui sont non hormonaux. En fait, ça a été une observation que des femmes sous antidépresseurs ont moins de bouffées de chaleur. Parce que dans les mécanismes des bouffées de chaleur, intervient un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine.
Ah oui.
Et donc cette sérotonine, avec ces fameux antidépresseurs, est à un niveau plus élevé et ça va améliorer effectivement les bouffées de chaleur.
Oui, enfin bon, si on ne fait pas d'hormones, en échange on a des antidépresseurs, c'est pas terrible.
Non, ce n'est quand même pas du tout ce qu'on propose en général, d'autant plus qu'il peut y avoir des interférences avec des médicaments qu'on donne chez les femmes qui ont souffert d'un cancer du sein. Oui.
Mais ça veut dire que le THM, ça a un effet sur le moral aussi, ou pas ?
Déjà, si vous vous réveillez pas...
On dit ménopause, saute d'humeur, ça peut...
Oui, ça joue quand même, ça peut jouer sur le psychisme. Déjà, s'il y a un vrai gain en qualité de vie, ça améliore déjà le psychisme, ça améliore effectivement les troubles du sommeil, ça améliore le trouble de l'humeur.
Oui, ça fait beaucoup déjà.
S'il y a moins de sécheresse vaginale et que la sexualité est plus satisfaisante, c'est aussi meilleur pour le moral.
Tout le monde s'en porte mieux.
Tout le monde peut s'en porter mieux.
Il y a des choses aussi du côté de l'aromathérapie qui peuvent venir au secours des femmes qui ont des bouffées de chaleur. Vous conseillez la sauge sclarée sous quelle forme ? Comment ça se prend ça ?
Ce sont les huiles essentielles. Alors on a trois manières de faire. On peut en mettre un petit peu dans une huile végétale comme une huile d'abricot et on en met 3-4 gouttes. On se masse le bas-ventre avec par exemple. On peut l'inhaler en en mettant par exemple sur les poignets ou on peut en mettre 2-3 gouttes avec une cuillère de miel.
Et ça donne des bons résultats, vos patientes, elles sont contentes avec ça ?
C'est vraiment important d'avoir un panel de solutions autres que le traitement hormonal parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas et beaucoup de femmes qui ne peuvent pas. Donc, on a effectivement les antidépresseurs, on a aussi un acide aminé qui s'appelle l'ibuprofène, on a les huiles essentielles. On a aussi et l'homéopathie et la phytothérapie. On sait que tous les traitements complémentaires ont au moins 50% d'effet placebo.
Lactée à grappe noire aussi, c'est quoi ça ?
Lactée à grappe noire, c'est une plante amérindienne qui a aussi montré son efficacité, toujours dans des proportions qui sont modérées, mais même si on sait qu'on a 50% d'effet placebo, c'est la moitié des femmes qui sont améliorées.
C'est génial, c'est ce qu'on demande.
On ne va pas se plaindre, voilà. Exactement.
Docteur, il y a certaines femmes qui sont tentées de tester des choses plus naturelles, les phytoestrogènes de soja par exemple, contre notamment les bouffées de chaleur. Selon vous, ça fonctionne ou est-ce qu'il y a des risques avec le soja, tout ça ?
Alors, les phytoestrogènes, ce sont en fait des produits qui vont agir comme les œstrogènes. Ça veut dire qu'ils auront les mêmes contre-indications que les œstrogènes, en particulier concernant les antécédents de cancer du sein ou de cancer de l'endomètre. Donc ces phytoestrogènes Vous pouvez les trouver soit sous forme de compléments alimentaires, hein, sous forme de gélules, et puis vous en pouvez en trouver aussi dans votre alimentation. Il y en a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les isoflavones. Alors, celui qu'on connaît très bien, c'est le soja. Mais on a aussi une autre source qui est assez fréquente dans l'alimentation, qui sont les lignanes, qu'on va trouver dans les légumineuses, qu'on va trouver dans les noix. On trouve aussi ça dans le café, dans le thé. Donc, avec des compléments alimentaires ou l'alimentation, on peut aussi se supplémenter un peu.
Bien sûr. Qui dit ménopause dit aussi souvent trouble du sommeil. Et là, vous dites attention, attention, ne cédez pas, mesdames, trop vite à la sirène des somnifères, parce que c'est souvent à cet âge-là, au moment de la ménopause, qu'on rentre dans ce cercle vicieux.
Là, il faut être très, très, très prudente, parce qu'effectivement, les troubles du sommeil sont là, souvent à cause des bouffées de chaleur. Mais commencer à mettre le doigt dans l'engrenage des barbituriques, parce que c'est quand même ça, on a un risque de dépendance qui est très important. Donc, cherchons toutes les solutions alternatives.
Et dans les solutions alternatives, il y a le THM et la phytothérapie, c'est ça ?
Oui, la phyto. Alors là, on a le quartet gagnant, hein, c'est aubépine, passiflore,
valériane.
Et j'oublie le dernier, mélisse.
Ah, mélisse, voilà. Qui marche bien, génial. Et justement, on parle souvent de prise de poids, hein, au moment de la ménopause. Le corps change, mais vous dites que en fait, ça change même avant la ménopause.
Ah oui, le corps ne change pas. Vous n'avez pas un poids normal. Et puis tout d'un coup, à 50 ans, bam, vous prenez 10 kilos. Déjà, quand on regarde les courbes, on voit que ça commence déjà vers 40 ans.
38, parfois, ça change 38. Un peu.
et ça commence très régulièrement. Et en fait, il y a une raison physiologique à laquelle n'échappent pas ces messieurs au demeurant. Parce qu'avec l'âge, on va perdre de la masse musculaire.
Bah oui.
La masse musculaire brûle 80% de nos calories, y compris quand on dort. Donc si on mange pareil, si on bouge pareil, à partir de 40 ans, on va prendre du poids.
Donc soit on mange moins, soit on bouge plus. On a compris. Merci beaucoup, docteur Bagot, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On en aurait encore beaucoup à vous dire, hein, sur, et à vous poser comme question sur la ménopause et ses troubles. Mais on va vous réinviter une autre fois pour discuter de tout ça. Merci encore à vous.
Merci docteur Julien. Maintenant, on va se diriger vers notre séquence tendance. Nos trois chroniqueurs vont arriver dans ce studio. Le premier, ce midi, ce sera le chef Abdel Alaoui qui vient avec du kimchi dans son panier. Vous ne savez pas ce que c'est ? Bien, nous non plus, on ne savait pas. Et il nous a dit que c'était du chou cuisiné à la Corée. C'est très facile à cuisiner, vous verrez. Et puis Sophie Braffman viendra nous parler de ses tendances mode qu'elle a repérées pour nous au festival de hier. Et enfin, Benjamin Lévesque, notre expert beauté, lui aussi, il a déniché des pépites cette semaine, des innovations en cosmétique, notamment des crèmes à base de diamants. Rien que ça.
Sympa.
Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voici le programme d'Europe Midi. On se dirige vers un chèque carburant pour aider les automobilistes à amortir la hausse du prix de l'essence. Mais, et c'est ce que nous a dit ce matin Bruno Le Maire sur Europe 1, ça ne sera pas pour tout le monde ce chèque. On va y revenir en détail avec Maud Descamps. La CAF et Pôle emploi, plus d'un agent sur cinq ressent des tensions avec les bénéficiaires. C'est une information Europe 1. Comment ça s'explique ? Quelle est la situation dans les agences ? Je poserai ces questions à Carole Ferry. Anne Hidalgo inaugure aujourd'hui la police municipale de Paris. 154 agents seulement qui seront opérationnels à partir de demain. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? On sera avec Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. On ira au Vatican retrouver notre envoyé spécial Jacques Serret, qui a suivi la visite du Premier ministre au Pape. On sera avec le professeur Amouyel qui nous dira que l'épidémie n'est pas terminée et que certains feux passent du vert à l'orange. Je voulais qu'on revienne également dans Europe Midi sur le drame qui secoue la Grande-Bretagne, l'assassinat d'un député par un homme de 25 ans d'origine somalienne et qui avait suivi sans véritable assiduité un stage de déradicalisation islamiste. Les députés, notamment les députés britanniques, doivent-ils être mieux protégés ? On sera en direct avec l'un d'entre eux, Chris Bryant. Et puis, on apprend un mot aujourd'hui, un nouveau mot, métaverse, si on veut le prononcer à l'américaine, contraction de méta, du grec méta, et de univers, une sorte de double virtuel du monde réel. Facebook va embaucher 10 000 personnes en Europe pour créer un métaverse. Il y aura des applications pour tout le monde, du nourrisson au senior. Vous verrez ça dans Europe Midi, dans une demi-heure. À tout à l'heure.
Europe 1. Merci beaucoup Romain, on vous retrouve à midi et demi.
Retour dans Bienfait pour vous avec Cyclamed, qui collecte en pharmacie vos médicaments non utilisés ou périmés.
Europe 1,
11h, midi 30,
Bienfait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on vous partage chaque jour nos bons plans, nos astuces, toutes ces tendances qui améliorent notre quotidien. On vous en parle jusqu'à 12h30. Et le premier aujourd'hui à nous faire du bien, ce sera vous, chef Abdel Alaoui. On va cuisiner du chou, je crois, hein, c'est ça, mais pas n'importe lequel. Hein.
Oui, je vais cuisiner du chou et surtout je vais le rendre un peu plus sexy que moi.
Le kimchi au menu, c'est bien.
Génial, moi j'adore tous les choux, donc je suis sûre qu'on va se régaler. Et ensuite, ce sera votre tour, Sophie Braffman. Vous venez de poser vos valises, vous étiez au festival de hier et je crois que vous êtes très fatiguée parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup de rencontres.
Mais pas du tout, je suis en pleine forme, rayonnante ce matin. Oui, effectivement, je n'ai plus 20 ans, je suis un peu fatiguée, mais je vous ai ramené quand même quelques belles photos, dont le manteau girafe. Vous allez voir, pour prendre le métro, c'est ultra pratique.
Génial. Génial. Et puis enfin, on terminera cette séquence tendance avec le Maïté de la beauté, Benjamin Lévesque. Vous étiez au Salon de l'esthétique, vous, et là-bas, vous avez fait des découvertes.
Déjà, je remercie le Patrick Sébastien de la Santé pour ce compliment. Alors, effectivement, des crèmes à base de diamants, une machine qui nous dessine des tablettes de chocolat en une demi-heure, et puis des crèmes avec du sang de dragon à l'intérieur.
Du sang de dragon.
Encore plus belle et jeune.
Ouais, des cosmétiques version Harry Potter, on adore. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant, Benjamin, mais tout de suite, il est temps de passer à table dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous, les tendances.
On commence donc comme tous les jours à midi par la chronique gastronomie de l'émission. Aujourd'hui, c'est vous, Abdel Alaoui, vous passez au fourneau pour nous avec du chou venu de Corée, le kimchi. Vous êtes allé chercher loin celui-là. Hein.
Et oui, on a reconnu cette musique de
La soupe au chou,
toute mon enfance. Et j'adore moi ce film. Alors le chou en général, mais c'est surtout le kimchi. Alors pourquoi le chou déjà? Alors tout augmente aujourd'hui, même l'âge de la retraite des cuisiniers. Il y aura sans doute plus de retraite pour nous les jeunes. Donc si ça continue comme ça, d'ici une trentaine d'années, les cuisines seront pleines de vieux cuistots qui yoyotent. On verra apparaître des nouvelles recettes, la sauce escar, le ragoût Alzheimer, le gratin de chicot, les plats arriveront.
Quoi le rapport avec le chou là?
Vous allez voir, les plats arriveront très lentement et les clients furieux hurleront vers le cuisinier. Hé papy, qu'est-ce que tu fous? Et le vieux cuistot un peu sourd dans sa cuisine entendra: Hé papy, mets-moi du chou. Du coup, on mangera du chou tout le temps, et on aura bien raison, car c'est bon le chou, et c'est bien sexy quand c'est bien cuisiné. Alors il y a le chou de Bruxelles, évidemment, le chou fleur, le chou vert, le chou blanc, le chou napa, c'est ce chou blanc qu'on utilise beaucoup dans la cuisine chinoise. Le chou frisé, le chou rouge, le chou rave, le chou cavalier, les bok choy, les choux romanesco, et encore désolé pour tous les choux que j'ai oubliés. Alors même s'il est rustique, même s'il pue quand on le cuit à cause de sa teneur en soufre, le chou est hyper bon pour la santé. Alors quatre bonnes raisons pour manger du chou, on revient au kimchi bien sûr évidemment. Le chou est peu calorique, 12 calories pour 100 grammes, donc très bon pour un régime minceur. Le chou contient plein de vitamine C, donc renforce l'immunité, surtout avec le froid qui débarque.
Ah, c'est docteur Abdel Alaoui.
Ouais, c'est vrai. Que c'est toutes les chroniques. Je prends toutes les chroniques.
Régime au chou, ça m'intéresse.
Le chou sur un défilé de mode.
Chou fashion.
Le chou reste très riche en fibres qui accélèrent du coup le transit.
Oui.
Le chou reste quand même hyper tendance, mijoté, farci en soupe, braisé ou en gratin. Alors on le sert en choucroute avec une grosse saucisse.
Ça c'est bon ça.
Ça c'est bon hein. C'est hyper à la mode dans les bistrots, la bistronomie.
Mais attendez, le chou romanesco par exemple, moi je trouve que c'est on dirait un défilé. Il est magnifique, on dirait une dentelle. Enfin c'est sublime.
C'est géométrique, c'est beau, c'est très beau. Tout se ressemble. On a l'impression qu'il est entré dans un moule. On l'a retravaillé.
C'est pas très bon.
Si, c'est bon, on va rigoler. Ça, ah oui, ça dépend comment c'est cuisiné.
Ça dépend qu'il cuisine.
Parce que Sophie Braffman ne cuisine pas comme moi.
Non, c'est ça. Oui.
Donc on a besoin d'aide.
On vous écoute.
Bon, alors après la choucroute.
Le chou, tu vas aimer ça. Ah. Alors on le sert aussi en coleslaw. Tout ça, c'est des plats un peu à la mode. Hein, avec un petit bagel accompagné d'une bonne mayonnaise bien moutardée, un peu de miel, quelques pommes vertes, Granny Smith pour apporter un peu d'acidité. Ça, c'est la recette du coleslaw. Hein. Une bonne botte d'aneth ciselée, une poignée de graines de coriandre torréfiées, de la carotte, tout ça en julienne. Et c'est une tuerie, le coleslaw. On le sert en mode fermenté, le kimchi.
C'est ça dont on parle aujourd'hui. Hein.
Voilà, alors le kimchi c'est légèrement pimenté pour accompagner un bibimbap. Est-ce que vous connaissez le bibimbap?
Pas du tout. Pas du tout.
C'est un plat coréen, c'est du bœuf sauté avec du riz. Par exemple, comme chez Harakiri, c'est un des meilleurs ramen japonais, rue du Faubourg Saint-Denis, où on sert un petit kimchi comme ça sur son ramen.
Donc
on peut le servir
ouais.
aussi avec une soupe japonaise.
Et en Corée
Ouais, comment ils s'en servent en Corée?
Alors en Corée, on le sert en condiment. Ça remplace presque le sel. C'est-à-dire qu'on pose ça en bout de table comme ça et on vient piocher. Par exemple, si on a fait un bibimbap ou un ramen qui est pas du tout coréen mais plutôt japonais, on vient à chaque fois piocher comme ça dans son kimchi.
Et on picore. Comment prendre un peu de moutarde, on prend un peu de
kimchi, voilà, kimchi ou de poivre si on veut assaisonner un plat. Exactement.
D'accord. C'est très épicé.
Mais est-ce qu'on va goûter?
Et le chef. Alors vous allez voir, le chef Pierre Sang, je ne sais pas si vous connaissez.
Ah bah bien oui. Sûr.
Le chef Pierre Sang, lui, il y met du piment d'Espelette. À la base, on met un vrai piment coréen qui est très fort. Lui, il y met, pour apporter cette fusion entre la France et la Corée, du piment d'Espelette. Donc pour préparer un kimchi, moi je vous explique, c'est vraiment simple.
Pour faire à la maison, quoi. Comment on fait?
C'est hyper simple.
Allez, on écoute la recette.
Et alors, on prend chaque feuille de chou chinois avec du gros sel. On vient frotter comme ça ces petites feuilles. On les laisse reposer pendant 12 heures. Elles vont dégorger, elles vont rejeter un peu d'eau. Et après, on les retire, on rajoute du piment d'Espelette, des oignons, de l'ail. Et on laisse fermenter ça au minimum, franchement, 3 semaines, 1 mois.
Dans un bocal en verre, combien de temps?
3 semaines, 1 mois. Il y a même des kimchi qui attendent.
En fait.
Les 2-3 ans.
2-3 ans,
ça sent bon quand
ça
fait le bocal.
Et ça sent, oui, ça sent hyper bon. C'est faites passer, sent... vous allez voir.
Et là, c'est quoi ce... C'est vous qui l'avez fait, celui-ci?
Alors, non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est un petit restaurant, toujours à Paris.
Très bon,
rue Saint-Maur.
Froid ou chaud, ça? Comment
ça se mange?
Froid, hein, c'est ça, comme un condiment.
Oui,
bah
c'est marqué en coréen sur la boîte.
Donc là, vous l'avez trouvé où, Abdel?
Ça, je l'ai trouvé chez Gangnam Falafel. Alors, c'est marrant, cette adresse. C'est une fusion entre le Liban et la Corée. Alors la chef, elle s'appelle Nikki.
C'est original comme fusion, effectivement, c'est rigolo. Hein.
Ouais, parce que ça fait 10 ans qu'elle vit avec son copain qui est libanais. Alors elle était dans la mode. C'est marrant parce qu'elle était dans la mode.
Et elle a
tout quitté
dans la cuisine.
Pour la mode. Et elle s'est reconvertie dans le kimchi, exactement.
En plus, on parlait de reconversion juste avant. Donc parfois, il ne suffit pas de rêver. On passe à l'action.
On passe à l'action. Là, elle nous fait un petit kimchi sauté qui ressemble presque à une petite ratatouille avec de la tomate, du poivron.
Attention, c'est épicé, Mélanie.
Ouais. Attention, doucement, voilà. C'est un peu acide, un peu pimenté. Là, on a son fameux houmous. C'est là où elle fait la fusion entre le Liban.
Ça pique pas du tout, vous rigolez.
Un peu légèrement, quoi.
Deuxième effet. Il y a l'effet qui se coule après. Oh là là.
Là, c'est son houmous qui est juste une bombe. C'est une tuerie.
Je m'appelle Gomez, on a l'habitude quand ça pique un peu. Il y a de l'eau dans le studio.
C'est super,
là, il y a une bouteille, je ne sais pas qui c'est.
Non,
mais...
je ne sais pas depuis quand elle est là. Ouais.
Et donc ça, c'est son fameux houmous. Franchement, il y a la queue chez elle, ça cartonne. Et elle a réussi à trouver...
C'est marrant, ça pique longtemps en bouche.
Ah oui, c'est vraiment deuxième effet. Et c'est très bon. Donc faites du kimchi, c'est hyper simple.
Bien sûr, et c'est bon pour le transit.
C'est bon pour le transit. Et surtout, ça rend... c'est hyper original de servir ça à table si on a des amis.
Et c'est reparti. Je vous remercie, Abdel Alaoui. C'est reparti parce que c'était hyper bon. Merci pour toutes ces astuces et pour la dégustation. Et franchement, Mélanie, on a de la chance dans cette émission. On est bien nourris.
J'ai le feu là.
C'est génial.
J'ai le feu dans la bouche.
Je crois que c'est le moment de l'émission que je préfère.
C'est très bon pour la peau, le chou. Ça stimule la production de collagène.
Benjamin Lévesque qui vous le dit. Restez avec nous sur Europe 1 parce qu'il y a encore de belles tendances à découvrir dans notre tour de table. Sophie Braffman va nous décrypter les tendances vestimentaires vues au festival de hier. Et puis Benjamin Lévesque, on vient d'entendre notre spécialiste beauté, a parlé de diamants, je crois qu'il va nous offrir des bijoux, non, c'est pas ça Benjamin? Non, je crois pas que ce soit ça.
Croyez pas.
Allez, à tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. Nos trois chroniqueurs sont toujours à leur poste derrière leur micro dans ce studio. Studio qui sent un peu le chou, enfin le kimchi.
Mais je crois qu'Adèle, il a une astuce pour pas que ça sente le chou, que ça pue en tout cas dans la maison quand on cuisine. On fait quoi rapidement?
C'est vrai, j'ai une petite astuce. Alors on fait cuire le chou, donc du coup ça pue parce que c'est chargé de soufre. On fait chauffer de la cannelle et du gingembre.
Ça fait bouillir dans une casserole.
Et cette vapeur va se mélanger avec l'odeur du chou et ça va donner une odeur un peu plus agréable.
Voilà, et vos enfants accepteront peut-être d'en manger.
Alors Sophie, vous êtes notre spécialiste mode et vous avez été chinée de belles choses pour nous au festival de hier. Alors racontez, ça donnait quoi?
Alors indépendamment d'être allée à ce 36e festival d'hier et de se dire pourquoi on vit à Paris quand c'est si sublime dans le sud, j'ai vu des somptuosités, que ça soit de la photographie, des accessoires de mode. C'est un festival qui se tient donc depuis 36 ans chaque année à la Villa Noailles. Alors un festival détonnant où l'on parle chiffon, production, le tout auréolé de performances, de danse, de monsieur qui se
dénude sur des barrières. Ouais. Alors qu'on soit vêtu ou pas, c'est aussi ça hier, de la douceur, du spectacle, de l'audace, de la création et de la musique avant toute chose. Puisqu'on a entendu, vous l'entendez là, Camélia Jordana chanter a cappella dans l'immense hangar où était accueilli le défilé. Et autre personne qui a chanté que vous connaissez bien évidemment, Iseut, bien connu du grand public, génial, Malik Djoudi ou Eddy Depréto, tous deux familiers de ce festival puisque c'est à la fois un lieu de résidence artistique, la Villa Noailles. Enfin, Barbara Butch, la DJ qui réenchante les dance floors, parce qu'ailleurs, il y a de la mode bien sûr, mais il y a des soirées dans un aéroport. Vous dansez devant une piste avec des Boeing qui s'envolent, de quoi vraiment décoller. Une Barbara Butch extrêmement bien vêtue qui pourtant s'était exprimée dans Les Échos sur la mode XXL en disant que c'était très difficile aujourd'hui de trouver des vêtements à sa taille.
Bon, Sophie, une ambiance éclectique, créative, tout le monde peut s'inscrire à ce prix prestigieux. Hein.
Alors, c'est ça qui est formidable justement, c'est extrêmement ouvert à tout le monde, au grand public. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on entende Jean-Pierre Blanc, le fondateur de sa belle voix grave, qui m'explique pourquoi ce festival existe et en quoi il est ouvert à tous.
Et l'esprit du festival d'hier, c'est de soutenir, d'encourager, de supporter les jeunes créateurs, les jeunes artistes, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de talent qui puisse passer au travers des fils de la raquette. C'est une expression que j'emprunte à notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui l'utilise souvent. Et voilà, je pense que la mode, c'est pas de l'entre-soi, c'est pas une histoire de copinage, et c'est une histoire de talent et de créativité, ce qui est l'essence même de la mode.
On y est presque hein, avec vous là, c'est bon,
on
comprend pourquoi vous êtes fatiguée.
C'est
contre.
Cette fameuse Barbara Butch voilà, qui mixait en fait au démarrage du défilé. Alors moi j'adore hein, la formule de Roselyne Bachelot, elle a vraiment le sens de la formule, sur le fil de la raquette plutôt que sur les mailles du filet. Alors défilé très ouvert puisque ce festival s'ouvre vraiment à tous, sans limite d'âge, de frontières et de formation. Il faut savoir que le jury reçoit 500 dossiers au démarrage qui viennent du monde entier. On les réduit ensuite à 60 puis on arrive à 10. Alors il y avait un fort tropisme finlandais et letton, c'était assez étonnant puisqu'il y avait 6 candidats qui provenaient de ces deux pays. Mmh. Un or toujours plus créatif et pas un seul Français à l'horizon cette année. Mmh. Attention Helsinki et Riga arrivent, Paris n'a qu'à bien se tenir. Mmh. Une candidate suisse par contre, alors c'était un peu ma préférée, Adeline Rapace, qui réalisait des créations à base de tissus récupérés comme une robe à partir de nappes.
Oh, c'est chouette.
Oui, c'est ça la Suisse, hein, l'esprit pratique. Ils ont bien inventé le coucou.
Et côté prix, délibération, tout ça, comment ça se passe en fait?
Alors Julia, c'est un peu comme à Cannes. Vous aviez plusieurs prix, notamment le prix du jury, mais aussi le prix du public, le prix de la mode durable en partenariat avec Mercedes Nouveau cette année, le prix Chloé ou le prix Chanel des métiers d'art. Alors, accru exceptionnel, jury exceptionnel, la présidente du jury c'était Louise Trotters, hein, une directrice artistique de chez Lacoste, qui réenchante le croco, la célèbre photographe de mode Dominique Isserman, et enfin Christian Louboutin pour le prix de l'accessoire. On ne présente bien évidemment plus ses souliers à semelles rouges. Un Christian très préoccupé cette année par les cactus hein, qui étaient présents à la Villa Romaine. C'est un peu ça le festival d'hier aussi, des grands délires. Alors peut-être que ses souliers vont retrouver des imprimés cactus l'année prochaine, je l'espère. En tout cas, on ne gagnera pas en confort, mais ce n'est pas sa spécificité. Alors, côté création, je crois que vous avez repéré, Mélanie, ce manteau girafe que j'ai posté.
Il est incroyable. Je vous invite à aller sur le compte Instagram de Sophie Bravo.
On les mettra aussi sur le compte de l'émission.
Alors,
bien fait pour vous.
On les a déjà transférés hein,
sur notre
Alors, totalement.
C'est un manteau girafe.
Oui, c'est pas super pratique pour prendre les transports en commun, je vous le confirme. Par contre, en termes de distanciation sociale, on est pas mal. Donc là, c'était une créatrice finlandaise qui a absolument voulu rendre hommage aux animaux de son enfance. Alors, pas du tout des animaux finlandais, hein, puisqu'on avait une panthère, on avait un tigre, on avait un nounours aussi. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire, effectivement. Ensuite, on a eu donc dans les créations, je vais tout poster, hein, vous allez voir, mais il y en a énormément, un créateur taïwanais qui lui a vécu 2 ans à Paris et qui nous disait « À Paris, on a beau être habillé comme une poubelle, on reste toujours belle. » Oui, alors c'est vrai qu'il y a belle dans poubelle, mais il y a aussi moche, il y a pouille, hein, donc il y a aussi moche comme un pou. Je ne suis pas sûre, donc vous allez voir un hommage réel au sac poubelle. Deux créatrices lettonnes qui, elles, ont fait un mélange entre à la fois l'ère soviétique et l'époque capitaliste, avec des casques, avec des gros logos, alors hyper pratique, hein, quand effectivement on roule en Vélib ou sur des deux roues. Et donc des tas de tenues comme ça, très improbables, beaucoup de récupération. Je vais quand même vous parler du gagnant, parce que c'est important. Oui, s'il vous plaît.
Donc là, c'était retenez bien ce nom, parce qu'à mon avis, il va faire des collections. Ifenayi Okwadi. Et alors lui, c'était très stylistique, une collection très ludique, engagée. On était un mélange entre le scoutisme et en même temps une recherche pour lutter contre l'abri antinucléaire. Vous voyez, donc c'était vraiment extrêmement, extrêmement recherché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a le gagnant qui défile. Donc là, cette année, c'était le gagnant de l'année dernière qui défilait, Tom Vanderboort, notre gagnant flamand. Hein, vous avez vu, je le dis avec l'accent.
Très bien.
Alors là, je fais une mention tout à fait spéciale au sombrero, au chapeau oréo et au sac arrosoir que je vous invite à aller voir sur nos réseaux sociaux.
Eh bien, merci beaucoup Sophie pour cette belle chronique comme à chaque fois. Et donc, on va mettre les photos, bien sûr, on les met
plein de photos.
Voilà, sur le compte aussi Instagram, bien fait pour vous. Restez avec nous Sophie, car c'est au tour de Benjamin Lévesque de nous émerveiller. Je crois qu'il a apporté des diamants pour chacune d'entre nous, même pour vous, Abdel, il y en aura. Benjamin, il fallait pas quand même.
Non, je suis désolée, je les ai pas apportés en même temps. J'ai deux pierres précieuses avec moi, une qui s'appelle Mélanie, une qui s'appelle Julia.
Et Sophie me rappelle. Et moi, je sens le chou, c'est ça?
Non, je rigole, vous êtes mes petits cailloux à moi. Alors, effectivement, c'était la semaine dernière le 50e congrès international de l'esthétique.
Vous y étiez, Abdel, aussi, hein, je crois.
Non, oui, bien sûr. Non, j'ai pas
pris
vu,
plein d'idées.
Alors, il fallait pas être trop moche pour y être accrédité.
Est-ce que tu veux un morceau de kipchi sur la tête?
Non. Bon, force est de constater que j'étais le seul de l'équipe à pouvoir y accéder. Alors, comme tous les salons, il y a à boire et à manger, hein, mais tous les exposants nous promettent une chose, c'est de rester jeune et joli.
Donc on va choisir si on va travailler sur la ride du front, la ride de la patte d'oie ou encore la ride péribucale.
On va agir sur les cicatrices, les vergetures.
C'est l'ordonnance de beauté sur mesure.
Et bien ça va agir sur toutes les fonctions vitales de votre peau.
C'est un anti-âge. On a une gamme visage avec des crèmes, des laits, des sérums.
On perd du gras et en même temps, il y a de la densité musculaire qui est créée pendant le soin.
Un endroit authentique, quoi. Où vraiment voilà. Les gens disent restez comme vous
Exactement.
Êtes.
Exactement. Alors j'ai commencé par cette machine qui nous promet des tablettes de chocolat, hein, des abdos sans rien faire. C'est de l'électrostimulation. En fait, ce sont des patchs qui sont reliés à une machine et que l'on colle sur le ventre et ça va envoyer des stimulations électriques. Donc le muscle va prendre en volume et dans le même temps, on va dépenser de l'énergie. Donc on va perdre du gras. Le concepteur de la machine m'explique que 20 minutes d'électrostimulation correspond à 20 000 abdos. Alors si j'en fais 30 minutes, à votre avis, j'aurais fait combien d'abdos?
Oh non, c'est trop difficile. 60 000. Je sais pas,
c'est énorme. Ouais.
Bah oui.
Vous l'avez testé, Benjamin?
Alors non, justement, je l'ai
pas testé. Parce que j'ai pas l'impression que vous ayez des abdominaux.
Non, j'en ai pas besoin.
Béton, hein,
non, j'en ai pas besoin. Non, en fait, le problème, c'est qu'il y a 3 000 personnes qui sont autour, donc j'avais pas envie de me mettre torse nu devant toutes ces personnes. En plus, j'étais pas épilé. Bref, mais j'ai quand même rencontré Nelly, qui elle a branché la machine sur ses fessiers.
Écoutez, c'est pas spécialement super agréable. C'est des petits picotements un petit peu électriques, mais c'est pas une petite décharge électrique, c'est une petite vibration qui est pas hyper désagréable, mais pas non plus dans l'ordre du bien-être pur comme on pourrait l'entendre.
Ah, rien qu'à l'entendre, on entend la décharge électrique dans les fesses, là, mon Dieu, quelle arrangement.
Conclusion, il faut souffrir pour être belle. Alors, un petit peu plus loin, on m'a proposé de faire un diagnostic de peau. Alors, à ne jamais faire, sinon vous repartez avec des complexes, c'est une sorte de grosse caméra que l'on colle sur la peau et qui va zoomer plus. Petite démonstration avec Alexandre Lambert, le président de la marque Bloomea.
Alors on va placer la sonde sur différents points sur le visage pour pouvoir venir analyser la déshydratation, les rides, les pores ou encore les taches. Là on a une caméra qui va venir zoomer jusqu'à 40 fois votre peau.
Alors j'attends le résultat.
On a ici une peau déshydratée à 72%. Pour autant, on peut le voir, pas de rides.
Je suis rassuré là-dessus.
Voilà, exactement. Donc pour vous, Benjamin, par exemple, il vous sera conseillé un sérum pour peau mixte à mettre matin et soir.
Pour votre peau désertique,
Zéro rides.
Oui, mais vous êtes déshydraté, Benjamin.
Oui, je sais, mais j'ai mis le sérum, donc ça va mieux.
Ah, ça va mieux.
Ça va mieux. Alors, qui est plutôt bling-bling ici autour de
Sophie
la table?
Sophie Braffman.
Bon, Sophie, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Ce sont des cosmétiques à base de pierres précieuses. Alors, j'avais jamais vu ça. C'est la marque Gemologie qui fait ça. Ils utilisent du saphir, du rubis, par exemple, parce qu'en fait, ces pierres renfermeraient des oligo-éléments essentiels pour notre peau, comme du fer, du calcium ou encore du potassium. Et ils vont même encore plus loin en lançant une gamme de crèmes avec du diamant dedans, comme l'explique Christelle Lannoy, la fondatrice de la marque.
L'avantage du diamant, c'est qu'il est intégré dans la formule par des microparticules. Et lorsque vous appliquez le produit sur la peau, les microparticules se logent au cœur des rides et là vont réfléchir la lumière pour donner de l'éclat et de la luminosité. Et donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cet effet immédiat dès l'application.
Mais ça coûte une blinde quand même de loger des petits diamants au cœur des rides, non?
Ça
a l'air bien.
Assez cher. J'ai regardé
c'est moins cher le kimchi, je crois.
La crème jeunesse, c'est 180 euros. Et le sérum jeunesse, c'est 160 euros. Et ils intègrent jusqu'à 0,2 carats de diamants dans certaines crèmes.
Ah oui, quand même.
Tu regardes, c'est cher. Hein.
Exactement. Enfin, comme chaque salon, vous avez le fameux coin produit du monde. Ça nous permet de voyager, de voir des cosmétiques des autres pays du globe. Et ce qui m'a interpellé, c'est le stand du Japon. Mm-hmm. La tendance là-bas, c'est d'introduire du sang de dragon dans les cosmétiques. Or, quand j'ai vu ça, j'avais des étoiles dans les yeux, j'ai comme un gosse, j'adore les films de dragons.
Sauf que les dragons, ça existe pas.
Bah,
c'est la licorne.
Voilà, effectivement, douche froide, c'est la sève d'un arbre qui pousse au Japon. Ah. Mais il a quand même un super pouvoir, ce sang du dragon, c'est la capacité de régénérer la peau, comme l'explique Stéphanie, la gérante de la marque Utsukuzi.
C'est un anti-âge, c'est pour toutes les problématiques de peau en fait. Nous on l'utilise aussi beaucoup en fin de soins parce que ça va être un régénérant. On va agir sur les cicatrices, les vergetures, cicatrices chirurgicales. Donc on peut l'appliquer aussi sur une blessure, ça va venir vraiment cicatriser la plaie.
Eh bien, entre diamant et dragon, on va être vernis.
On va être joli. Hein,
on va être joli. Hein, belle et jolie, et beau et joli. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à tous les trois pour ces bons plans mode et beauté, ces conseils culinaires qu'on a bien notés. C'est aussi ça, bien fait pour vous. On se fait du bien également dans l'assiette. Allez, cette émission est donc terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous serons de retour demain, dès 11h, comme tous les jours. Et Mélanie, demain, quelle sera notre première question du jour?
Eh bien, Julia, on va se poser cette question. Et si bien parler pouvait changer nos vies, à savoir comment les mots, les bons mots modifient parfois notre destin. On verra ensemble en quoi notre façon de nous exprimer peut être une arme vers de nouveaux horizons. Le célèbre avocat Bertrand Perrier sera notre coach pour y arriver.
Et demain, Mélanie, il y aura aussi de nouveaux sujets tendances, de la santé, de la beauté. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.